France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Chose promis, chose due. Nous nous étions engagés il y a de cela quelques semaines à poursuivre un débat vif, passionnant, fécond aussi, sur l'antispécisme, c'est-à-dire sur ce courant philosophique, moral, politique, qui refuse la hiérarchie entre les humains et les animaux, un courant qui récuse que l'appartenance à une espèce soit un critère pour déterminer la façon de traiter un individu. Alors débat ce soir que nous poursuivons avec les mêmes invités qui avaient encore beaucoup à se dire et à évoquer autour d'une question. Cette fois-ci, peut-on, doit-on intégrer les animaux à notre communauté politique? Trois invités donc de retour. Victor Durand-Lepeuch, bonsoir.
Bonsoir, Quentin.
Vous êtes créateur du podcast « Comme un poisson dans l'eau » et vous venez de publier aux éditions de l'Atelier cet ouvrage intitulé « En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme ». À vos côtés, Réjeanne Sénac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, enseignante à Sciences Po. Vous avez publié « Par effraction, rendre visible la question animale », c'est chez Stock et Philosophie Magazine cette année, ainsi que « Comme si nous étions des animaux », c'est un libelle au seuil qui a paru l'an dernier. Face à vous, Ariane Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et à Philosophie Magazine. Vous avez publié l'imposture antispéciste chez Desclée de Brouwer. C'était en 2020. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
Ce gouvernement nous méprise. Quand je vois hier ce qui s'est passé en Ariège, c'était méprisant, quoi. Et pour les moyens qu'ils ont mis pour abattre un troupeau dont seule une vache était malade. Enfin, c'est...
On abat un troupeau sans savoir que c'était, comment c'est arrivé, donc on pourrait avoir des cas partout et on tue le cheptel français.
Ah ben oui, ils sont au bord du gouffre, ils ont vécu toute leur vie avec des vaches, aujourd'hui on leur enlève. Non, nous on n'accepte pas ce genre de questions, parce que là c'est eux, demain ça sera le voisin, et on s'arrêtera jamais, tant qu'il y en aura, on les crèvera toutes. Stop, on arrête, c'est hors de question.
Et comme nous parlons ce soir des animaux, de notre rapport aux animaux et à la politique, nous ne pouvions pas évoquer la dermatose nodulaire contagieuse, maladie virale dangereuse pour les bovins. Toute la journée, des agriculteurs et des éleveurs se sont mobilisés, en particulier dans le sud-ouest de la France, contre les mesures d'abattage de troupeaux, lorsque des cas de dermatose bovine ont été diagnostiqués. Dans l'Ariège, 200 vaches ont été euthanasiées. Victor Durand-Lepeuch, quel regard vous portez sur ces abattages ciblés?
Ce que je constate, c'est que comme toujours quand on parle d'actualités qui impliquent d'autres animaux, on ne parle pas vraiment d'eux. On ne parle pas de leurs intérêts, on n'en parle pas en tant qu'individus qui ont une vie et qui n'ont pas envie de mourir. On parle par-dessus eux. Tous les discours qu'on a entendus en fait, aujourd'hui, vraiment parlent des situations humaines, en fait, des conflits humains autour, à propos des animaux, mais pas directement à leur égard et pas concernant leur intérêt. Parce que finalement, du point de vue des animaux, mourir aujourd'hui, être abattu massivement si tout le cheptel est abattu à un endroit, ou mourir un peu plus tard à la fin du processus normal de l'élevage qui est aussi la mise à mort, en fait, pour l'animal, ça revient au même. Et donc, c'est bizarre, c'est presque paradoxal d'entendre des discours qui, d'un coup, s'émeuvent de la mise à mort des animaux, alors que quand c'est la mise à mort, l'abattage, le meurtre routinier qui est inhérent à l'élevage, On n'entend pas les éleveurs parler d'assassinat, on n'entend pas des gens s'émouvoir de cette mort-là. Donc on voit bien que c'est en fait parce que des intérêts humains sont en jeu et qui sont contradictoires que là, on en fait une question, mais une question humaine.
Ariane Nicolas.
J'ai l'impression qu'il y a eu un problème de méthode aussi, c'est-à-dire un manque de considération et effectivement envers les animaux de manière générale et aussi envers les agriculteurs, les éleveurs qui se sont sentis, on l'a entendu, vraiment méprisés. Je suis pas sûre que l'abattage était la seule solution, en tout cas dans l'urgence. On aurait peut-être pu envisager des solutions alternatives. Mais ce qu'on remarque en effet, c'est que la question du soin n'a pas été posée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut soigner ces animaux? Est-ce qu'on peut faire autre chose que les abattre tout de suite? Effectivement, il y a cette question, vous parlez de meurtre, moi je ne l'emploie pas pour la question animale. Il se trouve que ce sont, je crois, en majorité des vaches laitières. Donc elles ont une vie, une productivité. Hein. Pour beaucoup de chercheurs, on considère que les animaux travaillent, ils participent à la vie active de la société. Et c'est le cas de ces vaches. Et quand elles sont dans une situation de difficulté, de souffrance, effectivement, peut-être que l'abattage ne doit pas être la première solution, la solution maximale à envisager, peut-être d'avoir d'autres voies d'abord de sortie de crise.
Alors qu'il est le gouvernement, on parle de solutions alternatives tout de même, hein, notamment l'extension de la couverture vaccinale. Un point de précision tout de même, Ariane Nicolas, pourquoi ne parlez-vous pas de meurtre s'agissant des animaux?
Je considère que la notion de meurtre, elle ne peut s'appliquer qu'entre humains, dans la mesure où le fait de tuer un individu de la même espèce constitue une transgression vraiment à part entière qui est proprement, purement scandaleuse. Ça ne veut pas dire que tuer un animal, c'est bien. Je ne suis pas sûre que cette question morale se pose comme ça. En tout cas, si on commence à confondre le fait de tuer un semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait être autrui, quelqu'un en qui je me reconnais, quelqu'un qui pourrait être ma famille, symboliquement ou non symboliquement d'ailleurs, il y a quelque chose de cette exceptionnalité humaine dans le fait de tuer quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas appliquer aux animaux. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec les animaux, qu'il faut les tuer dans des circonstances qui soient aberrantes, il faut faire attention, il ne faut pas tuer tous les animaux, etc. Mais il y a quand même pour moi une barrière anthropologique qui ne peut pas être franchie.
Réjeanne Sénac, je vous fais réagir sur les deux points parce que, à mon avis, cette idée de meurtre vous fera également réagir. Mais d'abord sur la dermatose nodulaire contagieuse, sur cette actualité, comment est-ce que vous l'analysez ?
À travers le son que vous nous avez donné à entendre, on voit bien que ce qui est discuté par les éleveurs, c'est le mépris qu'ils ressentent dans les choix qui sont effectués avant tout pour sauver une filière, en fait, et sans prendre en considération l'intérêt de ces éleveurs et encore moins des animaux qui vont être abattus. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que qu'est-ce que ça met en évidence ? Ça met en évidence que le critère de choix, il est sur dans une logique très néolibérale de la bonne santé de l'agroalimentaire et pas ni des éleveurs ni des animaux. Alors pour regarder quand même, quand on regarde, j'ai regardé le salaire moyen des éleveurs en fonction des agriculteurs en fonction de leur type d'activité. Les éleveurs, c'est ceux qui gagnent le moins par mois, hein, et c'est ceux qui ont l'activité la plus difficile, la plus qui les confronte à la fois dans le rythme de travail, dans ce qu'ils portent. Donc on voit bien que on va sortir le président de la FNSEA qui lui est vraiment un businessman, hein, qui a fait d'ailleurs une école de commerce et qui gagne énormément d'argent, en particulier en étant au président du conseil d'administration d'Avril. Mais sinon, c'est 1 700 euros net par mois en moyenne, et avec souvent des emprunts très forts. Donc ce qu'on entend là, c'est une espèce de fragilité économique et sociale et de manque de reconnaissance. Mais comme le disait Victor Durand-Lepeuch, ça occulte la question qui est qu'on va s'émouvoir non pas du meurtre d'animaux, qui sont autour de 3000, je crois, mais de ce que ça va produire sur des familles, sur des humains, et sur une filière. Pour donner un ordre d'idée, les bovins, par an, on en tue en France près de 4 millions. Et là, on ne s'émeut pas de ça. C'est tout à fait normal. Donc on est dans une logique où, comme le disait Derrida, en effet, et Ariane Nicolas l'incarne, hein, c'est des crimes qui ne sont pas des meurtres, pour ça, c'est considéré comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme naturel, normal et nécessaire qu'on sacrifie à nos intérêts les non-humains, les animaux non-humains. Donc là, c'est un nœud, mais ce cas ne remet pas en cause ce nœud.
En quelques mots, Réjeanne Sénac, vous avez parlé de meurtre d'animaux. Alors pourquoi l'emploi de ce terme que réfute Ariane Nicolas ?
Parce que je trouve ça tout à fait intéressant de sortir de cette omerta qui nous permet d'être dans une dissonance cognitive individuellement où on mange des bouts de cadavres et on considère que c'est de la viande, on n'emploie pas les mêmes termes, on les appelle les steaks, voilà. Bon. Donc c'est une manière de ne pas voir qu'on mange des bouts d'individus ou du poisson et que notre société, pour déterminer où est le pouvoir, et là-dessus, je trouve qu'Achille Mbembe est très intéressant, sur le nécropouvoir dans la modernité politique, on est censé porter la liberté, l'égalité, la fraternité, hein, au sens aussi de solidarité. Et pourtant, notre modernité politique, elle est fondée sur la légitimité de certains de donner la mort, de laisser vivre ou de tuer. Et donc, si on veut tirer le fil pour savoir qui a du pouvoir, on voit qui tue qui et qui s'en sort. Les féminicides, c'est ça, hein, ça dit le sexisme. Les crimes racistes, ça dit le racisme. Et le fait qu'on considère que tuer des animaux non humains, les élever pour, à être vraiment dans quelque chose où c'est légal, où il va y avoir des espèces où on considérera que c'est pas normal, et d'autres où c'est normal, ça dit qu'on est dans des meurtres qui ne sont pas reconnus comme tels. On se donne ce pouvoir-là.
Ariane Nicolas ?
Pour revenir sur la question des vaches qu'on va abattre, il me semble qu'il y a un problème derrière qui est quand même la question écologique. C'est-à-dire que ces vaches-là, elles sont pas malades par hasard. Elles sont malades parce qu'il y a une petite mouche qui va les contaminer et cette mouche ne devrait pas être là au mois de décembre. Donc, juste, je répondrai après sur cette question, mais c'est des problèmes effectivement qui sont globaux et qui montrent que les humains et les animaux sont dans des relations d'interdépendance depuis la nuit des temps.
Comme le Covid d'ailleurs l'avait
exactement
déjà bien illustré.
Et à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire qui implique des animaux, on se rend compte, enfin, malheureusement, effectivement, que, enfin, on se rend compte, c'est-à-dire que on fait semblant de se rendre compte, alors qu'on sait déjà qu'on est évidemment dans des liens sociaux, en fait, déjà avec les animaux. Après, ça ne veut pas dire que ces liens sociaux, ils sont les mêmes entre les humains et entre les animaux. Et sur la question du meurtre, il y a, à mon avis, une distinction à faire, qui est celle de la morale et de la politique. Encore une fois, on peut considérer qu'avoir un geste de violence envers un animal, de brutalité, ça n'est pas bien, pour dire les choses un peu clairement. Est-ce que ça veut dire que ça doit être interdit? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une punition, et donc qu'il y ait une punition qui soit égale à une punition qui vaudrait pour l'assassinat d'un être humain, par exemple, ou d'une femme, par exemple, pour les féminicides? J'en suis vraiment pas très sûre, parce que je pense que ça serait, en fait, d'une certaine manière, reproduire une autre forme d'injustice que de considérer qu'il y a une égalité, effectivement, de traitement à avoir entre les deux.
Victor Durand-Lepeuch, si on en vient au cœur, cette fois-ci, de notre débat sur ce lien entre les animaux et la communauté politique que nous formons à ce stade entre humains, est-ce qu'il faut considérer, pour commencer, les animaux comme des sujets politiques à part entière?
En fait, ils le sont. De fait, les animaux font déjà partie de nos sociétés, de nos communautés politiques. On le voit, enfin, on peut multiplier les exemples où en fait les animaux sont là. Et les historiens d'ailleurs repassent derrière tout le travail qui avait déjà été fait pour montrer à quel point toutes les histoires qu'on a faites de la Révolution, des guerres, qui avaient été une histoire exclusivement humaine, en fait on peut relire toutes les archives et voir que les animaux étaient partout. Je crois que c'est Pierre Serna qui dit qu'en relisant les archives et en étudiant la Révolution française, il s'est rendu compte que 10% de la population parisienne était des chevaux. Pareil, Éric Baratet repasse et montre l'importance de la contribution des animaux dans les guerres, qui étaient au même titre que les humains enrôlés de force, en fait, pour contribuer à l'effort national et à la guerre et au combat.
Notamment
en fait,
les chevaux durant la Première Guerre mondiale.
Exactement, et en fait, on peut relire l'ensemble de nos enjeux politiques, qui sont proprement politiques, et voir que les animaux sont là, ils sont déjà présents, et que même s'ils sont présents, le paradoxe, c'est qu'on fait comme s'ils n'étaient pas là. En fait, on fonctionne en tant que société, comme si la société était exclusivement humaine, plutôt qu'une société déjà interespèce. Et la conclusion, enfin la conséquence directe que ça a, c'est que on fonctionne en piétinant les intérêts de tout un ensemble d'individus qu'on ne considère pas, qu'on ne prend pas au sérieux, qu'on ne prend pas en compte exactement quand, dans tous ces discours, finalement, on ne parle pas de l'intérêt des vaches en question, on parle des intérêts humains.
Mais est-ce que cette présence que vous décrivez, est-ce que la présence des animaux parmi nous, parmi nos sociétés, est-ce que cette présence fait d'eux des sujets à proprement parler?
Mais oui, tout à fait. En fait, comme on l'a dit, les animaux déjà ont contribué à la société dans laquelle nous vivons, telle qu'elle est. Ils ont contribué à façonner, en fait, le monde dans lequel on vit, qui n'est pas un monde humain, du coup, qui est un monde interespèce déjà, en fait. Ils sont dans nos foyers, ils font partie de notre famille, ils font partie de nos communautés, ils vivent avec nous dans nos villes, en fait, qu'on considère nos villes, mais qui sont aussi les leurs. Et c'est là où, en fait, on voit dans les arguments d'Ariane Nicolas qu'il y a juste un rejet, mais purement arbitraire, de les reconnaître comme des autrui, en déclarant, mais en fait, sans bon argument à mon sens, qu'ils ne sont pas là, ou en tout cas qu'ils ne méritent pas d'être reconnus comme des personnes, et en tant que personnes qui ont des intérêts, de voir ces intérêts protégés par des droits, en étant inclus finalement comme sujet de droit et sujet politique. C'est ça en fait, c'est à ça que sert le statut de sujet dans le droit dans nos communautés, c'est de venir protéger les intérêts des personnes. Les intérêts très simples, hein, les intérêts fondamentaux, c'est-à-dire ne pas être mis à mort, ne pas être torturé, ne pas être qu'on ne nous fasse pas souffrir inutilement et arbitrairement, ne pas être enfermé. Et après, il y a encore plus de droits qu'on peut ouvrir, mais disons que c'est les droits qu'il faut considérer en premier, avant tout, qui sont les. C'est pas pour rien qu'on les appelle fondamentaux. En fait, si on enfreint ces droits-là, on nous fait un tort parfois irrécupérable. Je veux dire, on nous vole ce qu'on a de plus cher à nos yeux, c'est-à-dire notre vie.
Je vais vous faire réagir, Ariane Nicolas, puisque vous avez été visée. Mais avant cela, Réjeanne Sénac, comment est-ce que vous abordez vous-même cette question des sujets et de l'animal comme sujet politique, puisque, disons-le, c'est le cœur de vos travaux et de vos récents ouvrages?
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est déjà de voir que dans notre construction de notre communauté politique, historiquement, la communauté des égaux, ceux à qui on applique légitimement les droits, et qui sont reconnus comme des citoyens actifs, ont exclu la majorité de la population. C'est-à-dire que on parlait du fait que c'était 10% de la population qui étaient les chevaux. Alors j'ai eu un jeu d'esprit où je me suis dit, dans la démocratie athénienne qui est souvent perçue comme une démocratie directe, exemplaire, il n'y avait que 10% de la population humaine qui était considérée comme des citoyens actifs. Donc il n'y avait ni les femmes, ni les métèques, ni les barbares. Donc en fait, et même dans la démocratie française, le suffrage dit universel était un suffrage qui excluait d'abord les pauvres, puis les femmes. Enfin. Donc ce qu'on voit, c'est que dans ces mouvements-là de définition de les frontières du sujet politique, on a exclu déjà d'abord des groupes humains qu'on animalisait. Hein. On a animalisé les femmes en disant qu'elles étaient soumises à leur instinct, à leur mission naturelle. On a animalisé les personnes racisées. Donc moi, j'ai croisé aussi la question des frontières du politique en lien avec l'animal. D'abord, en lien avec l'animalité, l'animalisation. Et donc, il a fallu, pour ces groupes d'humains qui étaient animalisés, faire la preuve qu'ils étaient des humains à part entière, qu'on pouvait les regarder comme des semblables. Ça, c'est intéressant quand vous dites je les regarde comme des semblables ou pas. Ben ça, c'est tout le défi de comment, qu'est-ce qu'on considère, et c'est Hannah Arendt qui disait, être humain, c'est imaginer l'autre ou s'imaginer comme un semblable. Ça veut dire qu'on sait qu'on est tous différents, qu'on est tous uniques, et pour autant, qu'on se reconnaît comme des individus qui ont le droit, justement, à ce que disait Victor Durand-Lepeuch, c'est-à-dire des droits négatifs, le droit de ne pas souffrir, le droit à l'intégrité de la personne, mais aussi des droits positifs. Et donc, dans la question, quand on intègre, si on intègre les animaux non humains dans notre communauté politique, c'est pas seulement dire qu'on est interdépendant, parce que ça, c'est une vision encore très, très anthropocentrée, qui peut être spéciste, mais c'est dire qu'on va prendre en compte pas seulement notre intérêt, mais aussi leur intérêt, de pas s'ouvrir, mais aussi positivement. Donc il y a des droits négatifs, mais des droits positifs, et ça, je pense qu'on en discutera un peu plus tard.
Une réaction d'abord à Nicolas avant d'aborder cette question des droits positifs, des droits négatifs, et plus encore de la façon de prendre en compte les intérêts des animaux.
Alors, les animaux sont reconnus par le droit aujourd'hui comme des êtres vivants doués de sensibilité. Donc, depuis 10 ans, la loi a évolué. Je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui, mais quand même rappeler qu'on a quand même...
Une avancée de la loi de 2015,
c'est
absolument.
C'est tout à fait, voilà.
C'est dans le code civil.
Dans le code civil, exactement. Alors, pourquoi est-ce que les animaux ne peuvent pas être considérés, à mon sens, comme des personnes juridiques, puisqu'on parle de sujet, mais je crois que le terme plus technique, ce serait le terme de personne, c'est que les animaux ne peuvent pas être responsables de leurs actes. Si on est un sujet de droit, si on est une personne... On doit avoir une forme de réflexivité. Le terme persona, ça correspond à ce masque de l'Antiquité qui fait qu'en fait, on est double. Et cette façon de pouvoir rendre compte de ses actes, c'est-à-dire se dire, à ce moment-là, j'ai agi comme ça pour cette raison, il se trouve que c'est impropre de l'être humain. Et on se souvient des procès qu'il y a eu au Moyen-Âge, qui consistaient à faire juger des oies, des cochons, des chiens, pour des méfaits qu'ils auraient commis, mais dont ils ne peuvent pas être tenus responsables. Donc, d'un point de vue juridique, si on veut vraiment prendre au sérieux cette notion de personne, il faudrait se mettre à juger les animaux, ce que moi je trouve un petit peu absurde.
Il n'y a pas de responsabilité animale ?
Non, la responsabilité animale, on ne peut pas reprocher à un animal de se comporter comme il se comporte, et c'est la raison pour laquelle il me semble important, par exemple, sur la question de l'élevage, et notamment de l'élevage intensif contre lequel moi je suis, hein, je veux dire, je milite contre, c'est l'idée que ces animaux doivent pouvoir déployer leurs aptitudes naturelles. Il y a l'espèce de chaque animal qui leur dit, par exemple, les cochons, il faut qu'ils grattent la terre, il faut qu'ils puissent marcher, etc. Et ça, il faut absolument le respecter. Il faut que les poules puissent marcher, il faut que les vaches puissent gambader aussi dans la montagne, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qu'on ne prend pas suffisamment en compte. Mais les exemples que vous avez cités, Victor, je pense qu'ils sont déjà en partie en place. On respecte un peu du bien-être animal, pas parfaitement, pas suffisamment. Et même moi qui suis contre l'antispécisme, je considère qu'on devrait aller plus loin. Mais cette chose est déjà faite. Après, une chose sur la question de la société. Il me semble que les animaux, entre eux, ne sont pas des sujets de droit au regard humain, parce qu'en fait, ils sont déjà pris dans une société qui est leur propre société animale. Tous les animaux vivent, d'une manière ou d'une autre, au sein d'une espèce qui a ses propres règles, qui a ses propres codes, qui ne sont pas du tout les nôtres, et qui évidemment ne sont pas sujets non plus au droit. Ça ne veut pas dire que nous, de notre côté, on ne doit pas leur en accorder. Il faut qu'on leur en accorde davantage. Mais ne pas oublier que cette question de la communauté politique, en fait, elle n'est pas propre aux humains. Les animaux aussi ont leur façon de faire de la politique entre eux.
Et les sciences sociales montrent de plus en plus qu'il existe justement de véritables sociétés animales dont il faut comprendre les ressorts. Victor Durand-Lepeuch, vous avez levé le doigt pour intervenir.
Oui, bah peut-être une petite réponse par rapport à ça. Pourquoi séparer, pourquoi perpétuer cette ségrégation entre le monde humain et le monde des autres animaux. Alors qu'en fait, de fait, et on voit par tous les exemples dont on a parlé jusque-là, on est en interaction permanente. Et on a des animaux dans nos foyers. Enfin, il n'y a pas de raison de se dire, de les renvoyer à une espèce d'altérité en mode, ils sont dans leur monde et ils font société et nous faisons société sans eux. De fait, c'est faux, en fait. C'est pas vérifié.
Il y a des lignes de rapprochement, des lignes de partage entre ces sociétés. Il y a des interdépendances, des interactions. Vous parlez des animaux domestiques. Ils ont énormément de droits aujourd'hui en France. Je veux dire, quand on a un chien ou un chat à la maison, même un cheval dans son... Alors, la question du cheval, moi, je suis, par exemple, contre l'abattage des chevaux, typiquement. Mais les chiens et les chats n'ont pas le droit d'être tués.
Mais c'est intéressant, pardonnez-moi, pourquoi êtes-vous contre l'abattage des chevaux et pas contre l'abattage des vaches? Qu'est-ce qui différencie l'un et l'autre?
C'est très intéressant. Effectivement, je pense que vous verrez dans ma réponse un pur arbitraire. Mais il faut voir qu'une société, une culture, en fait, une civilisation... Elle a aussi une façon de se représenter et d'avoir effectivement des modes de pensée qui doivent départager un certain nombre de choses. On considère que peindre un mur en blanc et peindre la Joconde, c'est pas la même chose. Et ben voilà, on discrimine en permanence, on fait des hiérarchies ou pas d'ailleurs. Et il me semble que pour la question du cheval particulièrement, parce que c'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de gens, c'est quand même la troisième sport, l'équitation de licenciés en France. C'est les choses justement sont des animaux domestiques, sont des animaux avec lesquels on a des relations qui sont des relations d'affection, de travail, de respect, même, de, je dirais, le cheval domine l'humain à certains moments. Et d'une certaine manière, on ne peut pas avoir à la fois un rapport qui va être un rapport de compréhension mutuelle et de co-construction, je dirais presque psychique avec les chevaux, et les amener à l'abattoir comme n'importe quel animal.
Victor Durand-Lepeuch.
Vous dites « les animaux ont des droits ». En fait, non. Dans le régime actuel, les animaux n'ont pas le droit. Ils bénéficient de certaines protections à la marge et selon notre bon vouloir. Et si on va plus loin sur l'article que vous avez cité de 515-14 qui a donné le nom à L214, l'association du Code civil, la réforme en 2015, en fait, on oublie souvent la deuxième phrase qui est « suite à « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », on a, sous réserve des lois qui les protègent, « les animaux sont soumis au régime des biens ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les faits, ils ont obtenu une espèce de statut bizarre et intermédiaire, mais qu'on dit juste après, nous pouvons les traiter comme des objets et nous allons continuer.
Au régime des biens, c'est ça que
vous régime des biens, c'est ce qui veut dire dans le droit, on peut les traiter comme des marchandises, comme des objets, et ils ne sont pas reconnus comme des personnes, c'est-à-dire pas titulaires de droits rattachés directement à leur personne. Et c'est là qu'on voit les deux paradigmes vraiment concurrents. Le vôtre, Ariane Nicolas, qui en fait relève, même si vous utilisez le mot droit, de la protection à la marge, qui est en fait un régime d'exception qui s'inscrit à l'intérieur du régime de propriété, c'est-à-dire les animaux restent notre propriété et nous avons droit de vie ou de mort sur eux et nous pouvons choisir selon notre bon vouloir et au final donc selon notre intérêt ce qu'on va réduire. Et en fait c'est pour ça que vous parliez plutôt de punitivisme finalement, parce que c'est le même régime de la protection animale qui va condamner certaines cruautés mais qui dépasse à la marge. Et l'autre régime qui et plutôt celui dans lequel s'inscrit l'antispécisme, c'est de dire les animaux doivent bénéficier de droits rattachés à leur personne parce qu'ils ont des intérêts propres. Et donc, on doit avoir en fait des droits qui sont inaliénables, leurs droits fondamentaux. Et donc, on ne peut pas choisir de protéger les chevaux, mais pas d'autres. En fait, c'est à ça que ça sert. C'est de reconnaître que c'est des individus qu'il faut protéger pour les intérêts intrinsèques qu'ils ont.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez un peu plus tôt dans la conversation, Réjeanne Sénac, vous souleviez la question de la façon dont on pouvait, dont on devait même prendre en compte les intérêts des animaux. Alors comment concrètement prendre en compte ces intérêts-là tout en étant dans une démarche antispéciste? Car je me disais en préparant l'émission que si ce sont des humains, des êtres humains qui ont la charge de prendre en compte les intérêts des animaux, est-ce qu'il n'y a pas là un biais de force qui nous contraint à demeurer dans un cadre anthropocentré?
C'est une difficulté qui nous renvoie d'ailleurs à la difficulté de porter l'égalité, pas uniquement pour ceux dont on a l'expérience, même en tant qu'humain, mais plus largement comme un horizon commun. Je veux dire quoi quand je dis ça? Moi, je travaille sur les mobilisations contre les injustices, aussi bien féministes, antiracistes, la question de la justice sociale, la question de la justice écologique. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas parce que vous êtes identifié comme homme que pour autant vous n'êtes pas peut-être sensible à l'égalité femmes-hommes. Or, vous êtes en position, vous, d'être privilégié sur ce sujet. Vous allez faire, je pense, être vigilant à être allié, et parce que vous savez que vous n'êtes pas le premier concerné, ou on peut dire la même chose sur le racisme, sur la question sociale. Donc, dans les luttes intra-humaines, on a l'habitude maintenant de s'interroger sur comment je peux être un allié, un bon allié.
Mais parce que je peux discuter avec une femme qui me fait part de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse, de la façon dont elle est discriminée, est-ce que je peux faire ça avec un animal, par exemple ?
Alors, sur le rapport...
Je pose la question très naïvement.
Non, hein. Sur le rapport aux animaux non-humains, il y a quand même un point, je pense, qui est assez peu discutable et on n'a pas vraiment besoin de discuter avec eux pour le savoir, c'est qu'ils ont un intérêt à vivre et à ne pas souffrir. Si déjà on se mettait en position de repenser nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de vie en intégrant, si ce n'est que cet élément, qui est quand même un éléphant dans la pièce, là on est quand même en train de dire, alors, est-ce qu'on va, on pense que c'est légitime de tuer telle espèce, telle autre espèce. Vous voyez, là c'est, pour moi, il y a quand même un côté qui montre cette espèce de rôle de démiurge humain qui décide. Alors toi, dans ma culture, je trouve que c'est intéressant qu'on on te sacrifie pas. Toi, par contre, on te sacrifie et ça montre notre pouvoir. Il y a déjà un point qui changerait énormément de choses dans nos vies et dans nos modes d'organisation, c'est se dire, est-ce qu'on considère légitime alors qu'on a le choix ? Et aujourd'hui, par exemple, en France, on a le choix. En termes de rapport à la santé, et que ça serait bon pour notre santé, pour les questions écologiques, de ne pas fonder toute une filière, hein, et le sujet de l'abattage est fondé là-dessus, hein, toute une filière, tout un équilibre économique sur le fait d'élever des individus pour les tuer. Donc ça déjà, ça serait quelque chose qui peut apparaître...
Le strict minimum,
et qui est pourtant déjà... essentiel. Ensuite, l'arbitrage de savoir comment est-ce que on va prendre en considération leur intérêt à vivre dans de bonnes conditions. Comment est-ce qu'on va cohabiter ? Donc là, on se met dans des logiques relationnelles d'arbitrage de nos intérêts, de leurs intérêts. Il y a des choses qui existent déjà. Hein. Vous parliez de poser comme critère.
Vous pointez rien, Nicolas, je précise. Hein.
Oui, je pointe comme critère de l'accès au statut de sujet politique ou de personne, le fait d'être en capacité d'être responsable. Vous l'appliquez pas pour les humains, rassurez-moi. Parce que sinon, vous allez sortir un certain nombre d'humains du sujet de droit.
Je vous fais réagir, Nicolas. Alors justement, cette question posée par Eugène Sénac.
Les humains n'ont pas tous les mêmes droits.
Non, mais par exemple, les enfants... n'ont pas forcément les mêmes droits
que les adultes.
Enfin, vous n'allez pas
prisonniers politiques perdent leurs droits. Les
vous
personnes
pas pour autant les élever pour les tuer.
Les psychotiques ne sont pas jugées. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain nombre.
Non, mais
de
là,
personnes.
On parle du droit de vie et de mort. Oui. Si on parle que du droit de vie et de mort, non, mais... parce que là, c'est ce sujet dont on parlait. Pour autant, vous n'allez pas sortir les individus humains qui sont pas en capacité d'exprimer leur responsabilité. Vous n'allez pas les sortir.
Non, il y a un système d'entraide et de solidarité sociale qui fait que, effectivement, pour certaines personnes qui ne sont pas en capacité, je ne sais pas exactement à qui vous faites référence, d'exprimer leurs besoins, leurs désirs, il y a une solidarité, une prise en charge qui peut être collective. Mais on s'est beaucoup focalisé sur la question de la mort. L'antispécisme, c'est aussi lutter contre tous les produits, enfin, contre la production et l'appropriation, je mets des guillemets, de produits qui sont d'origine animale. Donc, la lait, les œufs, le lait, etc. Donc on est vraiment beaucoup plus large dans les débats qui sont mis sur la table que la simple question de la mise à mort.
Je reviens, pardonnez-moi, sur la question de la prise en compte des intérêts des animaux. Là aussi, comme philosophe, comment vous abordez cette question ? D'abord de la communication pour tenter de comprendre quels sont fondamentalement les intérêts des animaux au-delà du droit de la vie dessiné par Eugène Sénac.
C'est le paradigme antispéciste que de parler d'intérêts animaux, qui est une façon, en fait, ça vient de l'utilitarisme, d'essayer de compter les nombres de, enfin, la souffrance, alors de manière un peu numérique pour savoir quelles sont les unités de souffrance, et on fait une sorte de gain comme ça. C'est un peu compliqué.
Il n'y a pas d'intérêt animal.
Le terme intérêt, il est utilisé vraiment surtout par les utilitaristes.
Que diriez-vous?
Il est transversal à toutes les théories morales.
On peut considérer que les animaux, honnêtement, sur ce terme-là, je ne suis pas sûre que ce soit essentiel. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils ne doivent pas avoir de droits. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait communauté plutôt avec les humains qu'avec les animaux ? Et pourquoi est-ce que cette communauté, elle doit être fondamentalement, premièrement humaine et secondairement animale ? Là, il y a un philosophe...
On est des animaux, les humains, mais...
Attendez, mais
Vous parlez d'animaux, mais j'imagine que vous ne parlez pas des insectes et des vaches de la même manière. C'est une façon de parler. Je pense que la question des animaux, c'est aussi en quoi ils ont les mêmes besoins que nous. effectivement, ils ont des intérêts peut-être, mais ils ont en tout cas des besoins et ils ont une contribution à la société. Et les besoins animaux ne sont pas du tout les mêmes que les besoins humains. C'est le philosophe John Rawls qui le montre très bien, à savoir qu'une société humaine, elle se construit aussi, le pacte social se fait parce qu'on a un certain nombre de services qu'on se rend et on fait société parce qu'on a des intérêts humains qui sont partagés et qui sont vraiment très spécifiques à notre espèce. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'école, on peut prendre l'exemple des transports. Un oiseau qui vit dans un arbre n'aura pas du tout besoin de contribuer au fait de construire des autoroutes, c'est plutôt contre son habitat, ce genre de choses. Donc, l'association première, elle se fait parce qu'on va avoir ce travail en commun de créer une culture qui va se perpétuer dans le temps et aussi un peu dans l'espace, mais à laquelle les animaux ne sont pas directement associés au début. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, les animaux viennent en renfort et compléter, nourrir notre lien avec le monde.
Victor Durand-Lepeuch, je vous vois bouillir, donc je vous fais réagir. Aussi, sur cette question là aussi de la prise en compte des intérêts des animaux, comment est-ce que vous la pensez, cette question-là ?
Oui, alors déjà, la question de la notion d'intérêt, elle est absolument transversale à toutes les théories philosophiques. Martin Nussbaum, qui s'inscrit dans une théorie des capacités, utilise intérêt. Des philosophes déontologistes comme Valéry Giroux utilisent la notion d'intérêt. Elle est vraiment juste centrale et revient à peu près à ce que vous avez parlé en termes de besoins. Donc, c'est pas du tout.
Chez Kant, on pourrait parler de respect, on pourrait parler. Arendt ne parle pas.
Même Christine Korsgaard, qui s'inscrit dans la continuité d'une théorie kantienne, utilise la notion d'intérêt.
Bon, mais sur la question précise de la prise en compte, là, c'est moi qui fais mien le terme, la question de la prise en compte des intérêts, Victor Durand-Lepeuch.
Oui, en fait, je suis d'accord avec une partie de ce que vous avez dit, Ariane Nicolas, qui est qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. C'est vrai, mais c'est vrai entre les humains aussi. Moi, j'ai pas d'intérêt à pouvoir avorter, par exemple. C'est un droit qui ne concerne que les personnes qui peuvent enfanter dans notre société et donc ont un intérêt à pouvoir, dans certaines situations, accéder à l'avortement. Il y a plein d'autres situations, en fait, qui sont propres à une certaine catégorie d'individus. On n'a pas tous le permis de conduire. On n'a pas tous les droits du travail de telle société. En fait, il y a une myriade de situations différentes qu'on peut prendre en compte et, en fait, on peut juste l'élargir aux autres animaux en réfléchissant comme vous le faites, mais je pense d'une façon qui veut mener à encore une idée de ségrégation des autres animaux qu'on met au-delà de nos sociétés. Mais en fait, on peut le faire de façon intéressante en se posant réellement la question quels sont les intérêts et les besoins des autres animaux la variété des situations et de leur vie, en fait, de leurs expériences.
Vous pensez intérêt individuel ? Moi, je vais rester bêtement rousseauiste. Oui, mais il y a un intérêt collectif, il y a une volonté générale qui fait que l'avortement, ça n'est pas bien que pour les femmes. Et l'argument, justement, de la légalisation de l'avortement, c'était de dire c'est un intérêt qui est collectif, c'est une volonté générale qui s'exprime. Sinon, effectivement, chacun serait là juste à défendre ses petits intérêts particuliers et on n'irait nulle part.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un documentaire diffusé sur France Culture, la série documentaire imaginée par Pauline Chanu, réalisée par Clémence Gross, intitulée « Le monde après le spécisme » et cet extrait nous donne trois exemples de résistance animale.
Donc, il y a un exemple très connu de résistance animale qui est celui donc, de l'éléphant Taïk. En 1994, donc, c'était à Honolulu, donc, qui était en pleine représentation dans un cirque et qui, soudainement, en fait, a piétiné son dresseur. Et ensuite, elle est sortie sans du tout toucher au spectateur pour s'évader, quoi, c'est une évasion. Et elle a été donc pourchassée par la police locale et donc qui lui ont tiré des dizaines de balles en fait, jusqu'à qu'elle meure en fait. Les exemples de résistance animale qui sont vraiment les plus visibles, c'est souvent ceux liés à la captivité animale. Donc par exemple, on peut penser à la tigresse Mévi qui s'est évadée du cirque Moreno Borman en plein Paris et qui a été d'ailleurs abattue par son dresseur. Mais on peut penser par exemple aussi au taureau Ferdinand qui s'est évadé d'un abattoir en Ile-de-France et qui a pendant plusieurs heures été libre, qui a couru, etc. et qui a été pourchassé par la police et qui a été aussi tué.
Ces exemples donnés par Amandine Sensi-Sens, Réjeanne Sénac, posent une question au fond. Est-ce que les animaux, parfois, font de la politique ?
Alors ça dépend ce qu'on entend par politique. En tout cas, ils ont conscience des rapports de domination dans lesquels on les met dans des rapports de contraintes et ils essayent de s'en émanciper, s'en libérer. Oui, il y a des travaux qui montrent qu'ils sont des êtres sensibles, doués de conscience. Et en effet, ça nous arrange de pas nous poser de questions sur leur niveau de sensibilité, leur intelligence. Et d'ailleurs d'en faire des critères. Alors que comme je le disais à Ariane Nicolas, c'est pas un critère qu'on applique aux humains. Donc là, ça montre bien que derrière toutes nos recherches de critères plus ou moins objectifs, le seul critère, c'est des critères d'espèce. Et par rapport au fait qu'on conditionnerait le fait de respecter leur intérêt à vivre et à vivre dans de bonnes conditions et à ne pas être tué sur le fait que ça serait aussi bon pour notre collectif, alors là, on va être c'est très simple. Si on arrêtait l'élevage, ça serait très bon pour l'écologie, puisqu'on sait qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'eau, c'est une catastrophe, autant que l'industrie. Ça serait bon pour notre santé. Donc en fait, ça montre bien qu'on continue à exploiter les animaux, alors que on est en train de s'auto-détruire dans notre rapport aux ressources. Et donc, c'est pas rationnel. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. On ne veut pas voir leur regard, la violence qu'ils subissent, comment ils nous le transmettent, pas avec notre langue, mais de notre manière. Alors qu'on va le voir dans les yeux d'enfants qui n'ont pas encore la parole, parce qu'on les considère comme les semblables, donc on leur donne ce droit-là à l'infralangage. Et on ne veut pas non plus entendre les chiffres qu'on connaît maintenant. Les vidéos, on les connaît. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. On va essayer de rationaliser un comportement qui est en réalité un comportement fondé sur quelque chose d'une construction sociale et historique qui n'est pas rationnelle par rapport à notre intérêt. Et juste un petit point, parce que Projet Animaux...
C'est court, car vous avez encore 2000
Projet Animaux Zoopolis, et c'est intéressant, dans le cadre des élections municipales, ils mènent toute une campagne, donc L214 fait sur le sauvetage du siècle, sur le fait de sauver des animaux de l'élevage, et Projet Animaux Zoopolis, c'est par rapport à la ville en local, hein, aux mairies. Et ce qui monte, par exemple, sur les animaux liminaires, les surmulots, les rats, pour pas les appeler les rats, sinon on va les exterminer. Qu'en fait, ils ont une utilité aussi. Si on travaillait bien avec eux, si on se coordonnait, ils ont une utilité par rapport aux égouts. Donc, on peut aussi être dans une logique de collaboration.
Arène Nicolas, puis Victor Durand-Lepeuch, 45 secondes chacun, s'il vous plaît.
Sur la question écologique, je vous suis. Sur la question de l'élevage également, effectivement, il faut absolument réduire d'une manière ou d'une autre ces gaz à effet de serre qui sont liés à l'élevage. Donc là-dessus, oui. On peut se demander, par contre, si la question de... Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire.
Vous avez un trou, la question initiale, c'était de savoir si les animaux faisaient ou non de la politique. Est-ce que la Rawlsienne
On le sait très bien, les éléphants font de la politique. Vous parliez de l'avortement tout à l'heure, moi j'ai découvert que par exemple, des chauves-souris sont capables de se faire auto-avorter quand il le faut, quand il y a un problème de pénurie. Donc ça, évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, mais je pense que quand même, l'idée qu'on puisse se mettre dans la tête d'un animal et qu'on puisse leur imposer ou pas notre façon de voir comment eux y vivent, ça reste quelque chose, à mon avis, qui est assez triste. Mais
c'est pas l'objectif, quoi. Enfin, c'est pas
Thomas Nagel l'a montré dans son article sur la chauve-souris. Il y a une barrière qui fait qu'on ne pourra jamais se mettre dans leur tête.
Victor Durand-Lepeuch.
Oui, je pense que c'est important de considérer que la citoyenneté, c'est pas un concours d'éloquence. C'est-à-dire que cette conception très logocentrée qu'on a, qu'il faudrait être un être pleinement capable, rationnel, délibératif, en fait, ça exclut plein d'humains, déjà, comme l'a suggéré Régine Sénac très justement, et ça exclut tous les autres animaux pour des mauvaises raisons, alors que le cœur de la citoyenneté, comme le dit très bien l'ouvrage Zoopolis, que je vous invite vraiment à lire de Sue Donaldson et Will Kim Lika, le cœur de la citoyenneté, c'est de prendre en compte tous les intérêts et leur délibération, leur confrontation dans la société, mais sans donner une prééminence à certains intérêts plutôt qu'à d'autres, sur des bases d'appartenance arbitraire.
Je suis désolé d'arrêter encore une fois cette émission en pleine conversation, vous aviez tous envie de poursuivre, et nous aussi malheureusement. Victor Durand-Lepeuch, Régine Sénac, Nicolas, merci à vous trois d'être revenus au micro de Questions du Soir. Merci également à celles et ceux qui ont pensé et fait cette émission. Juliette Mouélic, Mathias Mégy, Diane Devancey, Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve. À suivre après le journal, à l'occasion des 50 ans de sa disparition, que nous apprend Hannah Arendt. On en a parlé du monde d'aujourd'hui.